Merci Valérie. Je vais être très bref, tu as tout dit. On peut se poser une question, mais qu'est-ce que vient faire le politique, le Parlement, sur ces problèmes de recherche, et particulièrement sur les cellules souches? Valérie a rappelé l'historique. Nuremberg, après Nuremberg, on a considéré que les règles déontologiques ne suffisaient pas pour garantir la protection du vivant. Donc, on peut dire que la loi est née de Nuremberg. Alors, quels ont été les débats? Et peut-être, avant de vous dire les débats tels qu'ils se sont déroulés à l'Assemblée, Valérie, une scientifique, et plus qu'une scientifique, elle a le recul aussi sur tous ces sujets éthiques. Ces cellules souches ont provoqué un émoi dans la société, au niveau international, des courses-poursuites. Et je crois qu'il faut qu'on en tire déjà un certain nombre d'enseignements. Le temps de la recherche, c'est ni le temps médiatique, ni le temps, ni le temps politique. De quoi s'agit-il encore lorsqu'on parle de ces cellules souches? Ce ne sont pas des thérapies qu'on propose. On en propose dans un certain nombre de cas sur la partie de cellules souches, mais on est encore au stade de la recherche fondamentale. Et la recherche fondamentale, c'est pas un gros mot. C'est pas un gros mot, c'est le passage obligé pour mettre au point un certain nombre de traitements. Premier intérêt des cellules souches, c'est de comprendre, je parle sous ton contrôle, la différenciation cellulaire et voir ce que ça peut provoquer, cette différenciation cellulaire, y compris le mécanisme du cancer. Même si cette recherche fondamentale n'aboutissait qu'à cela, à mieux connaître cette différenciation cellulaire, ça serait un succès. Donc je crois qu'il faut qu'à la fois les responsables publics, les chercheurs aient ce recul. Vous savez, un commentaire à 8h le matin sur Europe numéro 1 ou à 20h le soir, on a assisté durant cette période, dans les années 2000, à cela, où en direct on vous explique que grâce aux cellules souches, les maladies dégénératives vont pouvoir être traitées. Vous imaginez ce qu'un malade atteint d'un Parkinson pouvait penser. On a vu des charlatans sur des chaînes publiques. Il y a eu des scandales, comme en Corée, comme en Italie. Bref, et tout cela au grand jour. En plus, moi je suis assez sévère sur un certain nombre de revues scientifiques, Science ou Nature. Il y a eu des comités de lecture pas suffisamment attentifs. L'exemple le plus typique a été l'exemple du Coréen. Et je me trouvais en Corée, à Séoul, pour le rencontrer à l'époque où le scandale a éclaté, à partir d'un article qui avait été faux, truqué. Je disais tout à l'heure que j'ai appris cette semaine qu'il gagne beaucoup d'argent maintenant en clonant des chiens à $70,000 le chien. Bref, je crois que ce thème des cellules souches a provoqué des excès et il faut en tirer un certain nombre d'enseignements. Nous risquons d'avoir, et nous avons, le même sujet, sur le même problème sur deux autres sujets. Quand on a déterminé la carte du génome, qu'est-ce qu'on n'a pas entendu à ce moment-là? Et alors les neurosciences, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Si l'homme pouvait connaître le fonctionnement total du cerveau, ça serait le bonheur absolu. Bref, je crois qu'il faut raison garder. Alors moi, je reviens à ma petite compétence. Qu'est-ce que fait le législateur? Pourquoi le législateur intervient dans une démocratie comme la nôtre au niveau du vivant, de la recherche sur le vivant? C'est une question légitime. Je vous ai parlé de Nuremberg. Mais moi, je crois que si on avait à qualifier les lois bioéthiques, je dirais que ce sont des lois des droits de l'homme, le droit du chercheur de pouvoir chercher librement, le droit du malade de pouvoir espérer demain un traitement par rapport à des maladies qui sont aujourd'hui incurables. Et le troisième droit, c'est le respect du corps humain, la dignité humaine. Car le plus grand risque éthique au niveau de la recherche, c'est la marchandisation du corps humain. C'est pour moi le sujet éthique numéro un. C'est la limite qu'il ne faut pas franchir. Alors, sur ces cellules souches, là encore, il y a eu des choses qui sont, à mon avis, qui m'ont choqué en tant que parlementaire. Cellules souches embryonnaires, cellules souches adultes, et ce qu'on appelle aujourd'hui les cellules IPS. Les cellules IPS, ce sont des cellules adultes qu'on reprogramme pour qu'elles aient les mêmes potentialités, comme Valérie l'a expliqué, que les cellules souches embryonnaires. Où s'est posé le débat ? Le débat ne s'est pas posé sur les cellules souches adultes. Il s'est posé sur les cellules souches embryonnaires. La loi a connu trois stades. Premier stade, qui était le plus simple, interdiction en France de toute recherche sur l'embryon. C'était clair, c'était net. Ensuite, il y a eu une législation que j'ai combattue, invraisemblable. Le projet de la loi a été modifiée et celle qui a été adoptée au bout du compte a été formulée ainsi, de mémoire. Toute recherche sur les cellules souches embryonnaires sont interdites. Je parle sous contrôle. Il y a un moratoire, quand même, de 5 ans. Et seront autorisées par dérogation la recherche sur les cellules souches embryonnaires s'il y a une finalité thérapeutique et si cette finalité thérapeutique ne peut pas être obtenue par d'autres moyens. C'est vraiment le comble en termes de rédaction et ça a été adopté comme cela. Ça voulait dire qu'on gommait ce qu'était la réalité, la recherche scientifique, la recherche fondamentale, et on parlait d'application thérapeutique. Ça veut dire que si on appliquait à la lettre cette formulation, il n'y avait aucun protocole de recherche qui aurait pu être accepté. On a fonctionné pendant quelques années avec cette formulation, mais qui a fait fuir beaucoup de chercheurs. Car ce que retenaient les jeunes chercheurs français ou qui étaient post-doc à l'étranger, c'était qu'en France, les recherches sur les cellules souches embryonnaires étaient interdites. Ceci étant, heureusement que l'Agence de biomédecine, qui est le bras séculier du Parlement et de l'État, c'est l'Agence de biomédecine en France, qui est un organe régulateur, qui a son propre comité éthique, qui est un organe régulateur qui accorde le feu vert pour telle ou telle recherche. Heureusement que cette agence de biomédecine a eu une interprétation large de la loi, ce qui a permis à la recherche de ne pas être totalement en panne. Aujourd'hui, nous avons modifié à deux reprises la loi. Alors là, j'étais plus rapporteur, c'était Leonetti qui était rapporteur. Il a trouvé une rédaction qui simplifiait un peu l'autre, mais qui n'était pas satisfaisante. Et il y a un an de cela, on a tout simplement décidé d'inscrire dans la loi que la recherche sur les cellules souches embryonnaires était autorisée. Mais était autorisée dans un cadre d'un encadrement strict. Comme l'a dit Valérie tout à l'heure, ces cellules souches embryonnaires ne peuvent être obtenues qu'à partir des embryons surnuméraires. Ces embryons surnuméraires, pourquoi nous les trouvons ? Parce qu'il y a un projet parental qui a été abandonné ou qui a réussi, il reste des embryons surnuméraires, que cela fait l'objet de l'accord des parents et qu'enfin, l'embryon ne peut pas être réimplanté. Voilà les conditions fixées par la loi. Donc ce sont des conditions extrêmement strictes. Et moi, je veux témoigner en tant que parlementaire. La recherche aujourd'hui en France peut se faire dans de bonnes conditions. L'encadrement est strict, il n'y a pas de dérapage. Et l'agence de biomédecine joue parfaitement son rôle. Mais nous avons supprimé le mot thérapeutique. Le mot thérapeutique, vous savez, c'est comme quand j'étais conseiller régional, excusez-moi de la comparaison, et qu'il fallait financer de la recherche au conseil régional. Il y avait des collègues élus qui disaient toujours, mais nous, on veut bien mettre de l'argent sur la recherche si ça sert à quelque chose sur notre territoire, si elle est appliquée. Ils ne pouvaient pas comprendre cette recherche fondamentale, qu'on puisse mettre de l'argent dans la recherche fondamentale. Pour les cellules souches embryonnaires, c'est la même chose. Hein, l'application thérapeutique, ça n'a pas de sens. Il faut réhabiliter, il faut nous aider à réhabiliter ce terme de recherche fondamentale. Je crois que c'est vraiment un enjeu en France. Je ne plaisante qu'à moitié, mais c'est vraiment un enjeu en France extrêmement important. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui en France. Valérie a parlé des cellules iPS suite à une publication d'un Japonais. Le Vatican s'est réjoui immédiatement. J'ai rien contre le Vatican. En disant, ben, vous voyez bien, les cellules souches embryonnaires avaient des spécificités que n'avaient pas les cellules souches adultes. Je ne reviendrai pas sur le clonage thérapeutique, tu as tout dit. Mais j'ai des amis, moi, députés, dont Emmanueli, qui déposaient des amendements pour le clonage thérapeutique. Parce que par rapport à la fermeture totale d'un certain nombre de parlementaires, il y avait d'autres parlementaires et d'autres chercheurs que je connais bien qui ont exagéré quelque part l'état de la recherche pour faire passer un certain nombre de choses. On allait d'un excès à un autre. Bon, clonage thérapeutique, on en parle peu aujourd'hui. Pour les raisons que Valérie a évoquées, il faut beaucoup d'ovocytes et pour faire du coup, il n'y a pas eu de réussite probante. Sur les cellules iPS, en disant mais ça règle tout le problème, ils vont avoir les mêmes potentialités que les cellules souches embryonnaires avec aucun problème technique, éthique, ce qui est faux. Car reprogrammé, on peut retrouver exactement les mêmes problématiques éthiques qu'avec les cellules souches embryonnaires. Donc aujourd'hui, voilà où on en est au niveau de la loi. Il y a un sujet qui me préoccupe, c'est la propriété intellectuelle, le brevet. Car le brevet n'a pas été fait pour la recherche sur le vivant, a été fait dans d'autres cadres. Et aujourd'hui, il y a un risque qui n'est pas levé. Il y a une jurisprudence aux États-Unis, il y a l'Office des brevets au niveau européen. Il y a une tentation très forte de breveter la connaissance. Je vous prends un exemple. Et moi, j'ai vécu à l'époque, au moment du décryptage du génome, aux États-Unis, sur la côte est des États-Unis. Qu'est-ce qui s'est passé là ? Lorsqu'on a eu cette grille de lecture du génome, il y a des entreprises, des start-up qui ont voulu mobiliser des sommes d'argent, donc faire des tours de table financiers pour pouvoir financer leurs recherches. Et ayant mis en évidence tel ou tel gène avec telle application potentielle, ils n'ont pas breveté l'application, mais ils ont breveté le gène, le vivant, et l'application. Donc il y a eu des gènes très larges qui ont été brevetés. Et pourquoi ils le faisaient ? Pour une raison simple, car si à partir du gène qui était breveté, on trouvait une autre application, elle était dépendante du brevet qui avait été déposé. Donc, ils dessinaient leur territoire. Mais à travers cela, on brevetait la connaissance. Ce qui est, pour moi, inacceptable, de pouvoir breveter la connaissance. Et il y a eu des cas, Myriad Génétique, on pourrait citer des entreprises qui, il y a eu des procès, et il y a eu des jurisprudences aux États-Unis. Pour le moment, on revient à une réduction de ces brevets. Sur les cellules souches, on peut rencontrer les mêmes difficultés. Il peut y avoir à un moment cette tentation de breveter le vivant, ce qui ne peut être accepté. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. On a perdu beaucoup de temps en France. On a perdu beaucoup de temps à cause de ces hésitations. Je pense qu'aujourd'hui, la législation telle qu'elle existe permet aux chercheurs de travailler dans de bonnes conditions. Simplement, il faut refaire venir des post-docs en France sur ces sujets-là, que les équipes se renforcent. Il y a des essais cliniques, il y a des progrès thérapeutiques sur les cellules souches adultes, au niveau cardiaque en particulier, qui sont significatifs. Mais j'y insiste, pas à vous, vous connaissez ça par cœur, mais pour le grand public, il faut que les scientifiques, les responsables publics qui s'y intéressent, faut que les partis politiques s'y intéressent à tous ces sujets de société. On ne s'y intéresse pas suffisamment. On s'y intéresse quand on est au pouvoir et qu'il faut prendre des décisions, mais il n'y a pas de réflexion en amont. Et je crois que c'est parfois une erreur. Je crois qu'il faut respecter le temps de la recherche fondamentale. Moi, j'y insiste. Et regardez comment ça se passe. Pendant un temps, il y avait un journaliste dont je tairai le nom, qui était journaliste spécialiste des sciences du vivant dans un journal du soir. Il faisait combien de titres du monde durant cette période ont été faits. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment il procédait? Il prenait l'abstract d'un article sorti dans Science ou Nature et il assommait la vérité du moment, sans critique, sans recul, sans ce qui a provoqué des contresens, des polémiques qui n'en valaient pas la peine. Donc voilà, moi je crois que il faut être vigilant. J'ai le sentiment, et j'aurais le dire, je m'interroge si on a bien fait d'inscrire, comme on l'a fait dans la Constitution, le principe de précaution. C'est Jacques Chirac qui l'a souhaité. On peut comprendre quelle était sa démarche. Jacques Chirac, qui suivait de très près ces sujets de bioéthique, je me souviens, et qui était ouvert sur ces sujets-là. Je crois que ce n'est pas uniquement la religion qui a été un frein, parfois, à ces recherches. Il y a eu, dans notre société, des réactions parfois en chaîne par rapport à la science, par rapport à la recherche sur le vivant, qui ont fait beaucoup de mal à cette recherche. On l'a dit, Valérie l'a dit tout à l'heure, une recherche se juge par rapport à ce qu'elle apporte à l'humanité. Voilà. Et c'est comme cela qu'il faut pouvoir l'aborder. Que les religions puissent avoir, par rapport au début de la vie ou à la fin de vie, des conceptions différentes, elles sont respectables. Que des courants philosophiques peuvent avoir des approches différentes, c'est respectable. Mais pour moi, ça fait partie de la sphère du privé. Et je crois que le législateur, il doit être capable de sortir de cette sphère et de se dire à un moment, qu'est-ce qui est acceptable et qu'est-ce qui est bon pour notre société ? Comment on peut protéger à juste titre la société ? Le corps humain doit être protégé et tout élément du corps humain doit être protégé. Mais à partir de là, je crois qu'il faut tout mettre en œuvre. Tout mettre en œuvre pour faire avancer la recherche, car aujourd'hui, cette recherche fondamentale est indispensable. Je vous parlais de la différenciation cellulaire. On parlera de neurosciences tout à l'heure. C'est la même chose sur les neurosciences. Pas question de refabriquer. C'est vrai, comprendre un certain nombre de mécanismes qu'on ne comprend pas forcément. L'imagerie médicale va à une vitesse formidable. Je parle devant des spécialistes. Est-ce qu'on sera capable, en termes d'interprétation de l'image, être capable, par rapport au progrès de l'image, de pouvoir suivre les interprétations? Comment on va faire demain, au niveau du cerveau, lorsqu'on pourra détecter, comme on peut le faire aujourd'hui, potentiellement des maladies qui ne se déclareront quelques années après et qu'on ne sait pas soigner aujourd'hui? Voilà un sujet éthique qui est central et qui se pose déjà aujourd'hui. Donc bref, on a toute une série de sujets à aborder. Et moi, je crois que ce que fait Mendès France sur tous ces cycles de réflexion sur le cerveau, je crois que c'est utile. Je pense que plus que jamais, il est nécessaire aujourd'hui que le grand public s'approprie tous ces sujets scientifiques. On ne peut pas avoir une société repliée sur elle-même, frileuse sur ces sujets. Une société qui tourne le dos à la recherche est une société malade. Mais il faut aussi se poser des questions. Et je crois que la principale question aujourd'hui qu'il faut se poser, c'est la marchandisation. Car sur le vivant, je vous assure, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. On a parlé récemment de la gestation pour autrui, autre sujet. Il y a des risques assez considérables. Moi, je n'ai pas reçu d'associations de mères porteuses qui sont venues me voir. Mais j'ai reçu des personnes qui allaient dépenser 10 000, 15 000 dollars aux États-Unis ou ailleurs pour avoir un enfant. Donc, c'est des questions sur lesquelles, législateur, on doit aussi réfléchir. Et je crois que parfois, il faut savoir tenir bon. Moi, j'étais